Je suis reconnaissant à Dieu de nous permettre de vivre ce jour ensemble. Et je crois que ce jour sera pour nous tous un jour tout à fait décisif. Non seulement pour le temps présent, mais aussi pour l'éternité. Je pars du principe que nous croyons tous en Dieu. Et je pars également du principe que nous croyons que les Saintes Écritures sont la parole de Dieu. Non seulement qu'elle rend témoignage à la parole de Dieu, comme le formulent certains théologiens, mais qu'elle est la parole de Dieu qui nous parle, qui nous engage envers Dieu, qui est contraignante dans tout ce que nous croyons et enseignons, et sur quoi et en quoi nous plaçons notre espérance. Nous l'avons entendu dans ces brèves paroles d'introduction, et je voudrais également aller droit au but. Il ne s'agit pas seulement de parler de Dieu, voire de philosopher à son sujet, de parler de religion, y compris du christianisme. Tout cela ne suffit pas. Nous devons entrer en relation avec Dieu, recevoir une relation avec lui, ne faire qu'un avec lui, nous laisser intégrer dans son plan et devenir partie prenante de son œuvre de salut qui touche maintenant à sa fin. Cet après-midi, mesdames et messieurs, chers amis, vous entendrez certainement des choses que vous n'avez encore jamais entendues. Mais il faut préciser que toutes les choses ont bien été révélées à chacun pour la première fois à un moment donné où nous sommes parvenus. L'important, c'est que ce qui est exposé soit vrai. Et cela n'est vrai que si cela vient de Dieu, si cela est confirmé dans la parole, alors c'est vrai. Le critère ou la référence de tout ce que nous croyons et enseignons, c'est bien les Saintes Écritures. Et si aujourd'hui, et ce n'est ni un jugement, ni une critique, si aujourd'hui nous observons le monde chrétien, nous constatons que quelques 310 dénominations sont réunies au sein du Conseil œcuménique des communautés religieuses. Si l'on observe le monde dans son ensemble, on constate l'existence de grandes religions. Il y a le bouddhisme, l'hindouisme, le confucianisme, et Dieu sait quoi d'autre encore. Et toutes prétendent mener au salut et indiquer aux gens la bonne voie. Je ne parle pas ici en tant que simple auditeur. J'ai exercé un travail missionnaire dans exactement 104 pays. J'ai acquis certaines expériences que tout le monde ne peut pas vivre au quotidien. Je peux donc affirmer avec certitude certaines choses d'après ma propre connaissance. Je voudrais commencer par dire que nous devons, en premier lieu, reconnaître Dieu et le plan de Dieu pour l'humanité. Et en second lieu, nous laisser intégrer dans ce plan de Dieu en accord avec sa parole, comme Il n'existe qu'une seule révélation de Dieu pour notre salut. Nous devons prendre au sérieux cette révélation de Dieu en Christ et oublier tout le reste. Ce n'est que là où Dieu s'est révélé personnellement à l'humanité sur terre que nous pouvons le rencontrer. Si Dieu ne s'était pas révélé en Jésus-Christ pour notre salut, nous devrions alors le chercher ailleurs. Mais s'il s'est révélé, et c'est ce que nous croyons, en Christ pour notre salut, alors il n'y a pas d'autre voie, pas d'autre vérité, pas d'autre but. Alors, tout vient de lui et tout ramène à lui, à l'origine de toutes choses. Nous n'aborderons pas aujourd'hui la politique. Nous avons certes annoncé certaines choses dans notre communiqué Vision 7000 que certains d'entre vous ont lu. Par exemple, nous sommes à la veille du plus grand événement de l'histoire de l'humanité, avec le passage du sixième au septième millénaire. Nous avons, si l'on peut s'exprimer ainsi, couché sur le papier quelques gros titres. Mais la pensée principale est que nous sommes en effet initiés à ce que Dieu a accompli, à ce qu'il accomplit actuellement et à la manière dont il mènera son œuvre à son terme avec son Église en Donc, dit en quelques mots, dont il mènera son œuvre à son terme très bientôt. En ce qui concerne la chronologie, c'est relativement simple. Il suffit de se référer à la chronologie biblique. On y note environ 2000 ans entre Adam et Abraham, puis encore environ 2000 ans entre Abraham et le Christ. Et nous nous trouvons désormais à la fin d'une nouvelle époque de 2000 ans. Au total, cela fait donc 6000 ans bientôt. Et nous lisons dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 9, qu'un jour auprès de Dieu équivaut à 1000 ans pour nous. Et Dieu créa le monde en 6 jours, et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et selon Apocalypse 20, le septième millénaire sera le règne millénaire de paix et le royaume de Jésus-Christ sur cette terre. Il ne s'agit donc pas d'une simple supposition, mais d'une certitude réelle, fondée sur la parole de Dieu et les signes des temps que nous vivons dans les derniers jours, dans les derniers temps, et pas seulement cela, mais à la fin des derniers temps. Et le retour du Seigneur est vraiment très proche. Et vous devez, mesdames et messieurs, comprendre que nous ne présentons pas ici un spectacle avec un grand sourire comme un passe-temps agrémenté d'un peu de mise en scène et d'une ambiance que nous créons nous-mêmes. Il s'agit avec le plus grand sérieux de la proclamation de la parole de Dieu dont dépend notre destin éternel. C'est avec ce sérieux saint que nous allons nous livrer à la méditation de la parole avant de visionner le film, c'est-à-dire un enregistrement vidéo dont je dois d'ores et déjà préciser qu'il date de de nombreuses années, plus de 30 ans, et qu'à l'époque, cette industrie en était à ses débuts, ce qui explique que la qualité de l'image en noir et blanc soit par ailleurs très médiocre. Mais ce n'est pas la qualité qui importe, mais ce que nous allons y voir et y entendre. J'y reviendrai d'ailleurs plus en détail lorsque je présenterai quelques photos et donnerai quelques explications. Je voudrais tout d'abord lire quelques passages bibliques et y faire brièvement référence, car les paroles des hommes passent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. 1 Pierre, chapitre 2, les deux derniers versets. 1 Pierre, chapitre 2, versets 24 et 25. Verset 24. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, délivrés du péché, nous menions une vie de justice. C'est par ses blessures, par ses meurtrissures, que vous avez été guéris. Car, verset 25, vous étiez comme des brebis égarées. Mais maintenant, vous êtes converti vers le berger et gardien de vos âmes. Il faut souligner au nom de la vérité que l'homme naturel ne peut ni comprendre ni discerner les choses spirituelles et divines. Lorsque notre Seigneur Jésus a dit dans Jean 3, il faut que vous naissiez de nouveau, sinon vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu. Il savait exactement ce qu'il disait. Il a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. L'homme doit d'abord vivre une expérience personnelle de salut avec Dieu. Connaître une véritable conversion vers le Seigneur, être renouvelé et naître de nouveau, afin de pouvoir ainsi, par le Saint-Esprit, accéder à la parole inspirée et dictée par le Saint-Esprit. Pour avoir cet accès à la parole, si nous abordons le contenu divin avec notre raison, nous n'y parviendrons pas. Paul écrit aux Corinthiens, l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de la divinité. Nous ne pouvons pas donc aborder la parole de Dieu avec nos propres pensées. Au chapitre 14, ainsi qu'au chapitre 16 de l'Évangile selon Jean, notre Seigneur souligne que le Consolateur, le Saint-Esprit, viendra et nous conduira dans toute la vérité. Puissions-nous maintenant avoir la grâce que chacun élève vers Dieu un soupir dans la prière et dise dans son cœur, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit et révèle-moi par ton esprit la parole qui est maintenant proclamée. Croyez-moi, l'intellect a son domaine. Toutes nos compétences, nos connaissances, voire la science, tout cela a sa raison d'être, mais lorsqu'il s'agit du divin et du spirituel, nous avons besoin de Dieu qui nous avons besoin que Dieu nous aide. Nous avons besoin d'une inspiration, d'une conduite par le Saint-Esprit à la parole précieuse et sainte, dans la parole précieuse et sainte. Dans deux passages bibliques, l'un tiré de l'Évangile selon Jean, qui dit celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 34. Car, Jean 3, 34. Car celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu. Très important. Un homme qui parle au nom du Seigneur sous un mandat divin doit avoir reçu un envoi divin. Dans l'évangile selon Jean au chapitre 20, notre Seigneur s'adresse à ceux qu'il envoie après sa résurrection. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 21. Puis il leur dit encore, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et à ce sujet, voici la parole tirée de la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 6. 1 Jean, chapitre 4, verset 6. Mais nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à cela que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit de tromperie. Il y a eu sur terre des hommes de Dieu qui ne se sont pas désignés ni envoyés eux-mêmes, mais qui ont été mandatés et envoyés par Dieu. C'est d'eux que parle notre Seigneur en disant, celui qui vous écoute, m'écoute, c'est moi qui l'écoute. Et celui qui vous reçoit, vous accueille, c'est moi qui l'accueille, c'est moi qui le reçois. C'est avec autant de sérieux que nous devons prendre cette affaire avec Dieu, les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu. Lorsque nous lisons dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1, qu'un homme envoyé par Dieu est apparu, cela nous remplit de grande joie. Mais cela ne nous sert à rien aujourd'hui. Nous devons aujourd'hui savoir ce que Dieu a accompli à notre époque. Nous avons besoin aujourd'hui d'une orientation divine et spirituelle et nous ne pouvons l'obtenir qu'en reconnaissant les promesses qui se rapportent à notre époque. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 6. Il y eut un homme envoyé par Dieu, Jean 1, verset 6, qui s'appelait Jean, verset 7. Celui-ci vint pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. On pourrait alors s'écrier aussitôt, cher Dieu, il y avait des scribes, des pharisiens et des sadduciens, des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs. Il y avait des associations religieuses et tu dis simplement qu'un seul homme doit se présenter ici et que tous doivent parvenir à la foi par lui. On dirait alors, oh bien-aimé Dieu, où est ici la justice? Là-dedans, n'est-il plus permis de voter ici? La majorité ne doit-elle pas décider? Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la majorité qui décide. C'est Dieu et Dieu seul qui décide. Et nous devons tout simplement respecter cela. Et je lui en suis reconnaissant pour cela. Imaginez qu'on puisse voter, qu'on puisse intégrer ainsi la démocratie dans le royaume de Dieu. Quel chaos cela serait. Dieu a envoyé ses hommes tantôt tôt, tantôt tard, et sans doute à tous les hommes qui, en leur temps, ont reconnu cet envoi divin et ont accueilli la parole qui leur était adressée afin d'entrer ainsi en communion et en relation et en accord personnel avec Dieu et son œuvre. Et ainsi donner raison à Dieu et de se ranger de son côté. J'aime énormément cette phrase. Il y eut un homme envoyé par Dieu. À l'époque du prophète Michée, il y avait de nombreux prophètes. Achab les fit tous venir et Josaphat écouta ce qu'ils prophétisaient. Ils prophétisaient. L'un d'entre eux, un roi, 22:6, Sédékias s'était même fait des cornes et disait, ainsi parle le Seigneur, c'est ainsi que tu repousseras tes ennemis et que tu remporteras la victoire. Et alors cet homme, Josaphat dit, le roi de Juda, n'y a-t-il pas encore un homme à qui nous puissions nous adresser, qui pourrait nous donner une réponse de la part de Dieu? Un homme que nous pourrions consulter. Achab répondit, les 400 ne suffisent-ils pas? Ils ont tous prophétisé après tout. Et il y en a bien un autre, mais il n'appartient pas à notre communauté. Et dès qu'il se met à prophétiser, le jugement s'abat aussitôt sur moi. Puis il dit, fais venir cet homme. Pour résumer l'histoire, la différence entre les 400 et cet homme, c'est que les 400 étaient des prophètes en Israël, tandis que cet homme était un prophète de Dieu, qui disait simplement, je n'annoncerai que ce que Dieu me révélera. Ça, ce sont des hommes de Dieu, qui ne se laissent pas influencer par les autres. Et cette influence peut parfois être très religieuse. J'ai déjà participé à des rassemblements charismatiques, notamment une fois à Berlin, où les gens s'engagent réellement dans une dynamique dont ils ont du mal à sortir ensuite. Aujourd'hui, ce n'est pas l'atmosphère qui compte, celle que nous pouvons nous-mêmes influencer par la musique et bien d'autres choses. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est que nous nous ouvrions à l'influence divine de la parole et que cette même inspiration du Saint-Esprit nous touche et que nous ayons alors aussi le courage de nager à contre-courant, car il en a toujours été ainsi. Pour approfondir un peu cette parole, je voudrais partager cette réflexion. Il y a eu un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean et il vint pour rendre témoignage à la lumière afin que tous parviennent à la foi par lui. Nous connaissons l'histoire de la conversion de Saul de Tarse que nous appelons Paul. Je voudrais lire ce qui lui a été dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 26, à partir du verset 15. Actes 26, 15. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur répondit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Le verset 16, « Mais lève-toi et tiens-toi debout, car c'est pour cela que je t'ai apparu, afin de faire de toi un serviteur et un témoin de ce que tu as vu de moi et de ce que je te ferai encore voir. » Verset 17, « Et je te délivrerai du peuple d'Israël et des païens vers lesquels je vais t'envoyer. » Verset 18. Tu leur ouvriras les yeux afin qu'ils se convertissent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage parmi ceux qui ont été sanctifiés par la foi en moi. Là encore, on pourrait dire, cher Seigneur, tout cela est bien beau, mais tu désignes maintenant un homme, un seul homme, et tu lui dis, tu leur ouvriras les yeux, afin qu'ils se convertissent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Mes chers amis, mesdames et messieurs, il existe un ordre divin dans le royaume de Dieu. Et si des hommes ont eu le privilège d'entendre directement la voix audible du Seigneur, d'être éclairés par Dieu, ce sont des hommes là qui, par la proclamation de la parole, qui devient lumière divine, sont utilisés pour faire connaître la lumière de Dieu aux autres. Je voudrais lire à ce sujet un passage de la deuxième épître de Pierre. Nous allons aborder très rapidement les points. Vous pouvez être sûr que nous ne dépasserons pas le temps imparti. Peut-être le premier passage de la lettre de Pierre, à savoir de Pierre, chapitre 1, verset 19. Depuis chapitre 1, verset 19, et la parole prophétique que nous possédons est d'autant plus ferme. Et vous faites bien de y prêter attention comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur. Lorsque nous lisons dans le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds. Après, donc, près de 800 millions de chrétiens à travers le monde lisent ces paroles. Et tous suivent malgré tout leur propre chemin, à moins que Dieu ne se révèle à eux, ainsi que sa parole et sa volonté. Nous ne jugeons pas, mais par nature, nous sommes tous dans l'erreur. Par nature, nous sommes tous nés dans ce monde, dans le péché et la transgression. Et à moins que nous n'acceptions tout à fait personnellement la réconciliation avec Dieu qui s'est accomplie en Christ sous la croix à Golgotha, que nous n'entrions dans une relation et une communion personnelle avec Dieu et que nous naissions de nouveau ainsi. Et que nous ne naissions de nouveau ainsi en tant que fils et filles pour une espérance vivante. Il est tout simplement très important que nous ne nous contentions pas de recevoir un enseignement sur le royaume de Dieu et sur Dieu, mais que nous naissions de Dieu afin de pouvoir dire en toute légitimité notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si quelqu'un dit que nous sommes tous des enfants de Dieu, et vous, mesdames et messieurs, connaissez bien la tendance actuelle, même au Vatican, tous les chefs religieux vont et viennent. Récemment, ils étaient tous à Fatima, où de nombreuses apparitions auraient eu lieu. Il y avait des hindous, il y avait des musulmans. Toutes les confessions étaient représentées. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment confrontés à la tendance actuelle où l'on dit nous n'avons qu'un seul Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu, afin de tout concilier. Les enfants de Dieu sont uniquement ceux qui connaissent et reconnaissent Dieu comme leur Père. Tous les enfants du pays ne sont pas vos enfants. Les enfants que vous avez engendrés, c'est là que vous êtes leur véritable père. Et il en va de même sur le plan spirituel. Nous devons avoir été engendrés par la semence incorruptible de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. à propos de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est dit, « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » C'est ce qui est écrit dans le psaume 2 et dans les Actes des Apôtres 13. Nous devons nous aussi pouvoir dire la même chose, car selon Romains 8, verset 29, il est le premier-né parmi de nombreux frères. En lui, Dieu a donné naissance à la nouvelle lignée divine, à la race divine, et nous devons simplement respecter cela et en faire l'expérience par la grâce. Que nous recevions en nous la semence divine de la parole. Et je peux vous le dire, je peux vous le lire pour que vous sachiez que c'est ainsi écrit dans la Bible et que ce n'est pas seulement dit ainsi, mais je vais vous le lire directement, à savoir 1 Pierre, chapitre 1, versets 23 et 24. Verset 23, « Vous êtes en effet nés de nouveau, non par une semence périssable, mais d'une semence impérissable, à savoir par la parole de Dieu vivante et qui demeure éternellement. » C'est ce que nous devons avoir vécu. Telle est la nécessité, notre Seigneur a dit, en vérité, je vous le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et la tragédie, c'est justement cela. Ne m'en voulez pas, mais je l'ai entendu de mes propres oreilles. C'est qu'au cimetière, on dit, il a plu au Seigneur de prendre notre frère auprès de lui dans la gloire. Et puis j'ai appris par la suite que ce frère n'était pas dans la gloire, mais qu'il avait atterri quelque part au purgatoire et qu'il fallait y faire dire des messes pour que les choses aillent un peu plus vite. Personne ne peut me faire ça. Si le salut de Dieu dépendait de ce que des dignitaires ou des fonctionnaires peuvent faire, où en serions-nous tous? Le salut vient de Dieu seul. Et quiconque souhaite être sauvé doit se détourner de toute institution et se tourner vers Dieu. C'est de lui seul que vient l'aide et le salut. Tout le reste n'est qu'une consolation bon marché qui mène à la déception pour l'éternité. Vous direz peut-être, il a du sang prussien dans les veines. Non, c'est une nécessité. Si j'étais ici, mesdames et messieurs, et que je vous disais ce qui vous démange peut-être parfois un peu, comme l'a écrit Paul dans 2 Timothée 4, à savoir que dans les derniers jours, les hommes se détourneront de la vérité et se trouveront des maîtres sur maîtres, des docteurs qui leur prêcheront ce qu'ils aimerait entendre. Paul écrit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1, verset 10, « Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas du tout serviteur du Christ. » Si quelqu'un, et je ne veux pas parler aujourd'hui de ma modeste personne, de ma moindre personne, mais je ne serais pas ici aujourd'hui si je n'avais pas entendu directement, audiblement la voix du Seigneur. Je ne me tiendrais pas ici. Et si je n'avais pas été effectivement mandaté de proclamer sa parole, mais comme je viens de le dire, je ne souhaite pas m'étendre davantage sur ce sujet. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Il s'agit aujourd'hui de reconnaître que l'ordre mondial actuel, la civilisation telle que nous la connaissons, touche véritablement maintenant à sa fin. Et pour cela, nous n'avons pas besoin de semer la panique, mais simplement de lire Matthieu 24, Luc 17, Luc 21, ainsi que divers passages des évangiles jusqu'au dernier livre de la Bible. Nous reconnaissons alors très clairement que nous vivons actuellement les derniers jours. Et lorsque le Seigneur a parlé de la fin des temps et a évoqué tous les signes de l'époque, il a dit, quand vous verrez tout cela arriver, relevez la tête, car vous savez que votre rédemption est proche. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de devinette. Aujourd'hui, c'est simplement un ensemble harmonieux d'événements de la fin des temps où chaque événement s'enchaîne et où les choses suivent leur cours naturel. Nous pouvons effectivement relever la tête car nous savons que notre salut, notre rédemption approche. Comme cela a été dit en introduction, cela est certes très brièvement, mais de manière très très éloquente, que les choses que Dieu a accomplies sont passées sous silence par l'opinion publique, qu'on n'en tient absolument pas compte. J'en suis moi-même témoin. Et si nous nous penchons sur les jours de notre Seigneur, ce sont les chefs religieux qui disaient au peuple, croyez-vous, vous aussi en lui, seul le peuple la clame, les chefs, eux, ne croient pas en lui. Jean 7, 47 à 49, il faut imaginer qu'on l'avait attendu si longtemps, le Messie, le Sauveur, et que lorsqu'il est venu, on a dit, nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Luc 19, 14. On l'a complètement méconnu, lui et son ministère. Bien que, si le docteur Larkin a bien compté, 109 prophéties de l'Ancien Testament se sont littéralement accomplies lors de la première venue du Christ. Pourtant, les enseignants et les professeurs de cette époque enseignaient sans tenir compte de Dieu, chantaient sans tenir compte de Dieu, prêchaient sans tenir compte de Dieu, et tous les offices religieux passaient à côté de Dieu. Et cela, c'était la tragédie. Si quelqu'un dit « je suis athée », très bien, qu'il le soit. Mais quand des gens prétendent être croyants et qu'ensuite ils passent à côté de ce que Dieu fait, et certains ne s'en contentent même pas, ils le piétinent, le ridiculisent, l'attribuent au diable, comme à l'époque de notre Seigneur. Il disait, c'est Belzébuth, il est possédé par le diable, et c'est de concert avec le diable qu'il fait tout cela. Matthieu 12, 24. Imaginez, le Fils de Dieu, dont la puissance s'est manifestée parmi son peuple, né à Bethléem selon l'Écriture, comme il est écrit dans Michée 5, verset 1, ayant souffert sous Ponce Pilate, et quiconque lit Ésaïe 53 trouve toute la description de Gethsémani jusqu'à Golgotha. Quiconque lit le psaume 22, il trouve, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont tiré au sort ma tunique. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout était écrit dans les prophètes. Depuis la première promesse de Genèse 3 au verset 15 concernant la postérité de Dieu qui viendrait par la femme pour écraser la tête du serpent jusqu'à Malachie 3 verset 1, et le Seigneur viendra à son temple un improviste, l'ange de l'Alliance, celui que vous attendez, celui que vous désirez ardemment. Et là se trouvaient les armées célestes, louant et glorifiant Dieu. Toute la région de Bethléem fut illuminée cette nuit-là. Et qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Simplement parce que cela ne venait pas des plus hautes sphères, des plus hautes sphères, et n'avait pas été annoncé d'en haut, d'un point de vue terrestre, mais d'en haut, d'un point de vue divin. Cela n'a pas suffi aux gens. Des bergers accoururent pour adorer l'enfant Jésus, car on leur avait annoncé. Aujourd'hui, le Christ, le Seigneur, vous est né dans la ville de David. Allez-y, vous le trouverez. Ils y sont allés et ils l'ont trouvé. Je n'ai mentionné cela que pour souligner qu'il est possible aujourd'hui de jeter un regard dans le passé et sur le passé et de dire, mon Dieu, est-ce possible qu'ils aient agi ainsi? Avec le recul, nous pouvons dire aujourd'hui, ce n'était pas bien. Ils auraient dû s'en rendre compte et le reconnaître. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? Avons-nous compris et reconnu ce qui contribue aujourd'hui à notre paix? Avons-nous reconnu que Dieu veut nous rassembler maintenant pour se révéler à nous et proclamer les promesses pour ce temps? J'en viens au passage biblique qui parle de la fin des temps, du jour du Seigneur qui viendra et qui brûlera comme une fournaise. Et qu'avant ce grand et terrible jour du Seigneur qui viendra bel et bien, il existe cette promesse. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que ce grand et terrible jour du Seigneur n'arrive. Dans la parole de Dieu, Malachie 4, verset 5, nous avons les promesses jusqu'au moment où le temps débouchera sur l'éternité, y compris pour les jours où nous vivons. Et tout comme Dieu a envoyé un homme pour préparer le chemin, pour disposer le cœur du peuple, pour le mettre en accord avec la parole, il a été nécessaire à ces derniers jours, en ces derniers jours, qu'un appel retentisse depuis la Babylone même où se trouve la chrétienté, afin que nous puissions nous ranger clairement du côté de Dieu sans entrer dans un nouveau mélange. Je tiens également à souligner ce point, mesdames et messieurs. Les hommes veulent toujours mélanger. Il en était ainsi au temps de Noé. Les fils de Dieu virent la beauté des filles des hommes. Et le mélange entre la lignée de Seth et celle de Caïn eut lieu. Au temps de Moïse, c'est Balaam qui avait conseillé au Moabite qu'un mélange ait lieu. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Quelles que soient les croyances et les enseignements, il y a un immense mélange qui s'étend jusqu'aux plus hautes instances du conseil œcuménique des communautés religieuses. On dit que chacun peut croire ce qu'il veut. L'important, c'est que nous nous unissions. Ce n'est pas le temps. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'approfondir ce sujet, mais nous exposerons par écrit ce que cela implique lorsque nous tournons le dos au Seigneur et que nous sommes entraînés dans tous ces mélanges. Venons-en au fait, car le temps presse. Je lis les Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 19 à 21. Actes des Apôtres 3, verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés. Verset 20. Afin que vienne le temps de rafraîchissement de la part du Seigneur et qu'il puisse envoyer Jésus, celui qu'il a désigné comme oint pour vous. Verset 21. Mais il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé depuis les temps anciens par la bouche de ses saints prophètes. Vous pouvez relire ce texte chez vous dans le calme et dans la prière et vous constaterez qu'il en ressort clairement que Christ demeure au ciel et attend que tout soit divinement ordonné, ramené à son juste état primitif, que le désordre ait pris fin et que le Seigneur puisse à nouveau bâtir son Église, la rassembler, la bénir et en faire à nouveau une source de bénédiction, car la fin doit être semblable au commencement. Christ est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tel qu'il était, tel il est et tel il sera pour l'éternité. Pour que cela s'accomplisse, une proclamation était nécessaire afin d'attirer notre attention sur ce que Dieu avait promis d'accomplir. Dans le livre du prophète Malachie, au dernier chapitre, dans les derniers versets, il est écrit, nous le connaissons presque par cœur, au verset 5, Malachie 4. Sachez bien que je vous enverrai le prophète Élie avant que ne vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Élie était un homme de Dieu. Il s'est présenté devant le peuple et a crié d'une voix puissante, jusqu'à quand boiterez-vous entre les deux? Si Baal est Dieu, suivez-le. Si c'est le Seigneur qui est Dieu, servez-le. 1 Roi 18, 21. Qui ne connaît pas l'histoire sur le mont de Carmel, l'histoire du mont Carmel. Il est nécessaire qu'en ces derniers jours s'opère une séparation divine entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et l'illusion et la tromperie, entre la prédication véritable apostolique, véritablement apostolique du Nouveau Testament et toutes les traditions qui ont été inventées et introduites au fil des siècles. Nous sommes aujourd'hui confronté, et je ne le dis pas à voix haute, mais avec une grande douleur intérieure. Nous sommes confrontés à un christianisme détaché du Christ. Les apparences sont préservées en surface. On chante, on joue de la musique, on allume des bougies, on récite les prières les plus diverses, on invoque les saints et autres. Ils ne peuvent certes pas l'entendre, mais je n'y peux rien non plus. On fait tant de choses. Et savez-vous pourquoi cela se produit? Les gens veulent atteindre le salut. Ils veulent faire ce qu'il faut et faire ce qui est juste. Pensez-vous que quelqu'un devienne prêtre ou religieuse sans le vouloir au plus profond de lui-même ou sans en être convaincu? Tous en sont convaincus, mais soyons honnêtes. Pouvons-nous atteindre le salut à notre manière? Chacun peut-il décider à quoi doit ressembler le chemin de Dieu? Non, nous ne le pouvons pas. Nous devons nous tourner vers Dieu et comprendre. Il n'y en a qu'un seul qui ait pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et les Saintes Écritures enseignent aussi clairement « Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » L'homme, Jésus-Christ, un seul intercesseur. Dans ce qu'on appelle la chrétienté, il existe toute une armée d'intercesseurs. Qui peut intercéder? Qui? Seul celui qui a donné sa vie pour nous sur la croix à Golgotha, lui seul, qui s'est fait homme pour nous, et c'est là que se révèle le mystère divin. Notre Rédempteur devait en effet être les deux à la fois. Il devait devenir homme, c'est-à-dire naître dans ce monde, devenir mortel dans sa chair, être emmailloté, couché dans une crèche, grandir comme n'importe quel autre enfant sur terre, mais il était plus qu'un simple homme. Il devait être homme pour pouvoir mourir, pour souffrir, pour pouvoir compatir, ressentir avec nous. Mais il devait être Dieu pour vaincre la mort, triompher de l'enfer et priver le diable de son pouvoir. Les hommes qui sont morts se sont tous retrouvés dans le royaume de la mort ou du séjour des morts. Notre Seigneur est mort dans sa chair, il est descendu dans les enfers et a prêché aux esprits emprisonnés. Il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Il a vaincu la mort, l'enfer et le diable. Et il dit à Jean sur l'île de Patmos, « Je vis et vous vivrez aussi. » Alléluia. Sa résurrection garantit ma résurrection. La victoire de Golgotha est notre victoire à tous, nous qui croyons au Rédempteur et à la rédemption accomplie. Pardonnez-moi si je suis ainsi profondément ému, touché, saisi. Dans ces moments-là, je ne souhaite pas donner une conférence, mais prêcher. Et vous pouvez bien imaginer à quoi cela ressemble. Je suis profondément ému, touché par ces choses. Quand un homme a vécu ce qu'il proclame, quand il est devenu une partie de la parole, alors ce n'est plus un exposé issu de l'intellect, mais quelque chose que Dieu transmet pour inviter et impliquer les autres. Retenez bien ceci, c'est la décision de Dieu de ne rien faire sur terre qui soit lié à son plan de salut, à moins qu'il ne révèle son mystère à l'un de ses serviteurs et prophètes. Je vais vous lire cela dans Amos chapitre 3 verset 7, c'est écrit ici, Amos 3 verset 7. Non, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé son dessein à ses serviteurs, les prophètes. À toutes les époques, lorsque des événements particuliers devaient se produire sur terre, Dieu envoyait ses serviteurs et ses prophètes. Il avait un Abraham, un Moïse, un Noé, un Élie. Il avait ses serviteurs et ses prophètes qu'il pouvait toujours envoyer. Et comme nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure, et comme nous l'avons brièvement lu, lors du passage de l'Ancien au Nouveau Testament, il a envoyé Jean-Baptiste. Jean-Luc 16, verset 16, il est écrit, « La loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est prêché et les violents s'en emparent de force. » Dans 1 Corinthiens 3, dans 1 Corinthiens 4 plutôt, verset 1, il est écrit, « Que chacun nous considère comme serviteur du Christ et intendant administrateur des mystères de Dieu. » Au verset 2, « Dans ces conditions, on existe plus toutefois des intendants qu'ils se montrent fidèles. » Encore deux passages bibliques qui confirment ce raisonnement, cette réalité divine. Éphésiens, chapitre 3, verset 4. Chapitre 3, verset 4, Éphésiens. En lisant cela, vous pouvez reconnaître ma connaissance intime du mystère du Christ, verset 5, qui n'avait pas été révélé aux générations passées, comme il a maintenant été révélé à ses saints apôtres et prophètes. Non pas aux scribes, ni à ceux qui croient déjà tout savoir, mais à ses saints apôtres et prophètes. Apôtre signifie un envoyé, mais pas n'importe quel envoyé, un envoyé du Seigneur, que le Seigneur envoie personnellement. Dans l'épître de Pierre, nous lisons quelque chose de similaire, plus précisément dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 2. « Afin que vous gardiez à l'esprit les paroles que les saints prophètes ont prononcé auparavant, ainsi que le commandement de notre Seigneur et Sauveur qui vous a été transmis par vos apôtres. » 2 Pierre 3, 2. Dieu a un plan. Dieu a ordonné et déterminé les choses depuis le commencement dans son royaume. C'est lui qui fait ce qu'il veut et non pas tous les autres qui font ce qu'ils veulent. Et tous les hommes qui veulent maintenant prendre part à ce que Dieu accomplit sur terre et qui veulent passer l'éternité dans sa gloire avec lui doivent ici, bas, le reconnaître lui et son plan pour l'humanité, doivent s'y soumettre, faire l'expérience de Dieu et être en communion avec lui afin de pouvoir prendre part à ce qu'il accomplit. Encore un passage de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 1 et 2. Apocalypse, chapitre 1, versets 1 et 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et il l'a fait connaître par des signes en l'envoyant par son ange à son serviteur Jean. Verset 2. Et celui-ci rend désormais témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ de tout ce qu'il a vu. Ici aussi, sur l'île de Patmos, ils n'étaient pas nombreux. Un seul suffisait, un homme de Dieu, entre les mains de Dieu, servant de porte-parole de Dieu, suffit de porte-parole à Dieu, suffit pourvu que l'humanité veuille bien l'écouter. Et l'écoute. Nous n'avons pas besoin de 1000 messagers de Dieu que nous ignorons. Un seul serviteur de Dieu, porteur du message divin suffit pourvu que nous l'écoutions, y croyons, l'accueillons et agissions en conséquence. Venons-en maintenant, s'il vous plaît, à ce que Dieu a accompli dans nos jours. Et je vous prie de bien vouloir au moins m'accorder que je ne suis pas assez insensé pour courir après un mirage quelconque. Je me suis personnellement convaincu des choses que je transmets. Cela me tient vraiment à cœur, ne serait-ce que d'un point de vue purement extérieur. Je ne transmettrai rien du tout, simplement parce que d'autres l'ont dit. Je dois être convaincu devant Dieu et devant la parole, avoir vérifié, examiné et savoir que c'est vrai. Comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, et comme nous l'avons lu, le Seigneur voulait envoyer quelqu'un semblable à Élie avant que ne vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Je ne peux pas lire tous les passages bibliques, mais je peux les citer. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Mais le jour du Seigneur viendra brûlant comme une fournaise, ainsi de suite. En ce jour-là, les éléments s'embraseront et se fondront dans les flammes. Nous n'avons pas le temps d'approfondir cela. Il existe de nombreux passages bibliques à ce sujet. Ésaïe 13, Joël 3 et Joël 4, ainsi que de nombreux passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Paul écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, Personne n'a besoin de connaître ce jour ni cette heure, car le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais avant que ce jour du Seigneur n'arrive, qui brûlera comme une fournaise, selon ce qu'écrivent Malachi, Pierre, Esaïe, les prophètes et les apôtres en général, et en particulier dans l'Apocalypse, avant que ce jour n'arrive, Dieu voulait envoyer. Dieu voulait encore plutôt agir une fois. Il voulait envoyer le temps du rétablissement de toutes choses, le temps du rafraîchissement, remettre chaque chose à sa juste place, ordonner divinement tout au sein de l'Église. Et tout comme le prophète Esaïe et le prophète Élie a rassemblé les 12 pierres correspondantes aux 12 tribus d'Israël et a érigé l'autel du Seigneur. De même, aujourd'hui, l'enseignement des 12 apôtres, tout ce qui était prêché et pratiqué dans le christianisme primitif, doit être maintenant prêché et pratiqué de la même manière. Nous devons nous détacher de toutes les traditions et de toutes les pratiques ancestrale et nous laisser purifier par le bain de la parole, non pas pour provoquer la jalousie et la colère de Dieu, mais pour nous présenter devant lui. Permettez-moi de vous présenter très brièvement cet homme de Dieu que j'ai personnellement connu pendant exactement 10 ans, dont j'ai encore conservé, disons, 20 et une ou 22 lettres avec qui j'ai voyagé dans la même voiture, manger à la même table et que j'ai vu et côtoyé lors de rassemblements en Europe et aux États-Unis. Il s'appelle William Branham. Tout comme il y avait autrefois un Paul et d'autres, il y avait à cette époque, dans notre temps, un homme. Je vais vous montrer des photos dans un instant. Le 11 juin 1933, dans la ville de Jeffersonville, dans l'Indiana, cet homme a tenu sa première campagne d'évangélisation en tant que prédicateur baptiste nouvellement ordonné. Plusieurs centaines de personnes se sont converties et il s'est rendu au bord de la rivière Ohio. Après la dernière réunion de la matinée, il était environ 14 heures quand il s'apprêtait à baptiser la 17e personne. Environ 4000 personnes se trouvaient sur la rive et environ 300 devaient être baptisées. Et alors qu'il s'apprêtait à baptiser la 17e personne, il pria Dieu, Seigneur, de même que je baptise dans l'eau, baptise-moi toi-même du Saint-Esprit et de feu. Et à cet instant, une lumière éclatante perça la couche de nuages bas, visible pour toutes les personnes présentes, pour tous, croyants et non-croyants, visible pour tous. Elle traversa la couche de nuages, s'arrêta au-dessus de lui et la voix puissante dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder la première venue du Christ, de même tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue du Christ. Il va sans dire qu'il n'y a pas d'autre message de Dieu que les Écritures, les Saintes Écritures. Le message de Dieu sera toujours la parole de Dieu. Il s'agissait donc de remettre toutes ces vérités enfouies, tout ce qui avait été perdu sur le chandelier, de les remettre en évidence, de les proclamer à nouveau, de les rendre à nouveau accessibles aux gens. Et voici que Dieu a confirmé cet homme. Puis vint ce jour vraiment unique de mai 1946, lorsque l'ange du Seigneur vint vers lui et lui confia directement cette mission, ce mandat. Vous le savez, le monde entier ou la moitié du monde était en ruine. en particulier l'Europe, après la Seconde Guerre mondiale, c'était en mai 1946, vers 23 heures. Cet homme de Dieu, un homme très pauvre, originaire des montagnes du Kentucky, qui ne possédait même pas de chaussures. À cette époque, tout était cher et rare. Et l'ange du Seigneur, qu'il décrit comme descendant dans la lumière, il l'a vu en pleine stature, sans barbe, le visage clair. Il pesait environ 200 livres, selon les estimations. Et frère Branham a décrit sa taille, il ne portait pas de sandales, il était pieds nus, avec un petit complexe, pas la peau foncée, mais comme nous sommes quand nous prenons un bain de soleil, avec un peu d'huile par-dessus, il l'a décrit exactement. Et cet ange du Seigneur a dit, ne crains rien, j'ai été envoyé vers toi depuis la présence de Dieu pour te confier ce mandat. Tu prieras pour les rois et les princes, tes prières seront exaucées. Même le cancer ne pourra te résister. Dieu a fait en sorte que cet homme prie pour les malades. Non pas pour ceux qui avaient des maux d'estomac ou une maladie quelconque qui va et vient, mais pour les aveugles, les estropiés, les muets, les sourds. J'ai vu de mes propres yeux des aveugles de naissance retrouver la vue. J'ai vu de mes propres yeux de grands miracles et des prodiges et des signes. Souvent, j'ai pleuré comme un petit enfant. J'étais moi-même tellement bouleversé d'assister à la manifestation spontanée et immédiate de la présence de Dieu par la puissance de Dieu. Je ne souhaite pas m'étendre davantage sur ce sujet car l'heure approche. Le film doit être projeté dans quelques minutes. Voici un enregistrement datant de janvier 1950 où l'on voit la lumière au-dessus de sa tête. Il arriva donc que frère Branham prêcha au grand Houston Coliseum. Et il y avait là un prédicateur baptiste du nom de Dr. Best qui s'opposa à lui en disant ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres et ce qui s'y est passé ne s'applique plus aujourd'hui. C'était à l'époque, cela ne peut plus se produire aujourd'hui. Les guérisons n'existent plus et ainsi de suite. Et voilà que c'est le docteur Bosworth, que je connais personnellement, qui a ensuite mené la discussion avec ce docteur Best devant des milliers de spectateurs. Et tout à la fin, frère Branham est descendu de la tribune où il avait pris place. Et il y avait des photographes professionnels, Mr. Ayers, Mr. Kipperman du Douglas Studio à Houston, au Texas, mandaté directement par le quotidien Houston Chronicle pour prendre des clichés afin de pouvoir rendre compte le lendemain de ces rassemblements et du débat. Et voilà que lorsque frère Branham s'est avancé devant, il n'a prononcé que quelques mots. Il a dit en substance, si c'est Dieu qui m'a envoyé, alors c'est lui qui rendra témoignage en ma faveur. Je n'ai pas besoin de le faire. Et à ce moment-là, on a encore pris une photo. On en avait déjà pris tant d'autres auparavant avec Dr. Bess et frère Bosworth. Et maintenant celle-ci avec cette lumière. Toutes les autres prises de vue du film n'ont rien donné. pas une seule. Sur tout le film, il n'y avait qu'une seule photo qui ait donné quelque chose. Et c'est celle-ci. Vers minuit, les photographes ont tiré Frère Branham de son lit dans sa chambre d'hôtel et lui ont demandé, sais-tu qu'il y a ou qu'il y avait une lumière surnaturelle au-dessus de ta tête? Il a répondu, je le sais. Cela ne s'est pas produit pour moi. J'y crois de toute façon. Cela s'est produit pour vous. Ensuite, le négatif a été remis au docteur, comment s'appelle-t-il déjà, qui connaît son nom, au docteur George G. Lacey, un agent du FBI chargé d'examiner les documents suspects. Nous avons publié sa déclaration. Il a écrit double exposition exclue. Aucune retouche n'a été effectuée. La lumière était vraiment là. Sinon, elle n'aurait pas pu être captée par l'objectif. Je l'ai moi-même entendu de la bouche du frère Branham lorsqu'il a dit que cette photo était accrochée à Washington, plus précisément à l'art galerie où sont exposées des peintures religieuses. Et comme je l'ai dit, mon intuition m'a poussé à faire escale à Washington lors de mon prochain vol. J'ai cherché toute une matinée et j'étais sur le point d'abandonner. C'était entre 11 et 12 heures. Mais je me suis tout de même encouragé en me disant, tu n'es pas venu ici pour abandonner. Juste avant la fin des visites, moi et Val Frank, la Bible ouverte devant vous, j'ai vu de mes propres yeux cette photo à l'Art Gallery de Washington, D.C., à peu près 2 miles de la Maison Blanche. Ce monsieur, d'un certain âge, a ouvert un tiroir après que nous eûmes longuement discuté. Il a ouvert le tiroir et a dit, monsieur, cette photo ne présente aucun intérêt public. Je veux dire qu'elle finira bientôt dans un tiroir comme celui-ci. Je ne suis pas en mesure de juger aujourd'hui. Si c'est le cas, en tout état de cause, le Seigneur Dieu s'est manifesté. Et les détracteurs, les incroyants, ont dû témoigner que tel était bien le cas. Et j'ajoute cela pour la raison suivante. Lorsque vous, mesdames et messieurs, verrez le film tout à l'heure, vous entendrez Frère Branham dire, maintenant, la lumière est là et là, au-dessus de cet homme ou de cette femme. Lorsque Frère Branham priait pour les malades, il attendait que cette lumière descende. Et lorsque la lumière restait au-dessus d'une personne, il savait alors que Dieu souhaitait s'occuper de cette personne à ce moment-là bien précis. Il voyait alors ce qui lui était montré en vision, entendait ce qui lui était dit, puis il le prononçait à haute voix. Parmi les milliers de cas survenus en une vingtaine d'années, il n'y en a pas un seul qui se soit révélé erroné. De grands hommes de Dieu, Demos Shikarian, président international des hommes d'affaires à plein temps de l'Évangile, était un ami particulièrement proche de Frère Branham. Un jour, la sœur de Demos Shikarian était très très malade et pourtant des gens prophétisaient. Fille de Sion, ne crains rien, tu ne mourras pas, tu guériras. Frère Branham voit cette Florence Shikarian. Il voit l'horloge s'arrêter à 1h45 et il voit cette dame décédée, c'est-à-dire morte, dans son lit. Demos, chez qui elle vient le voir et lui demanda, que va-t-il se passer? Ils ont tout prophétisé que la fille de Sion vivrait. Frère Branham répondit, Demos, nous sommes de vieux amis. Je dois te dire que ta sœur ne guérira pas. Elle mourra tel jour, à telle heure. Je l'ai vu. Et il en fut ainsi. J'ai personnellement fait la connaissance de cet homme, Demos Shikharian. J'ai pris la parole devant les Full Gospel Businessmen à la Clifton Cafeteria de Los Angeles. Je connais tous les détails de son parcours, mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Dieu s'est servi du frère Branham après la Seconde Guerre mondiale, alors que l'évangile, le plein évangile gissait en ruine, tout comme la moitié de l'Europe ici, Dieu s'est servi de cet homme pour qu'une prédication accompagnée de miracles et de signes puissants prenne son essor. Et si vous relisez toute l'histoire des grands évangélistes que je connais également personnellement, vous ne trouverez aucun début antérieur à l'année 1949. En 46, 47, 48, il n'y avait qu'un seul homme de Dieu, et c'était William Branham. Puis vint Robert, puis Osborne, puis Tommy Hicks, puis Billy Graham, puis tous les autres. Et j'en connais aujourd'hui des centaines qui se sont ensuite manifestés. Mais Dieu s'est servi de cet homme simple qui avait reçu l'appel divin pour offrir la percée vers l'évangile, vers le plein évangile. Et ce n'était pas William Branham, c'était Dieu qui s'est servi de cet homme simple. Je dois encore ajouter quelque chose. J'ai également apporté aujourd'hui le magazine Life, ainsi que le magazine Science, pour une raison bien précise. Vous, mesdames et messieurs, voyez ici le nuage qui a été photographié haut dans le ciel, que frère Branham a vu lors d'une vision le 22 décembre 1962 et qui est ensuite descendu le 28 février 1963, ici dans le magazine Life, l'un des plus grands hebdomadaires. À l'instar chez nous du Stern ou du Spiegel magazine, tel est Life aux États-Unis, on peut y lire A High Cloud Ring of Mystery, un nuage haut dans le ciel, un anneau mystérieux. Le docteur James McDonald et d'autres n'ont pas pu l'expliquer. C'est là, là-bas, dans ce nuage surnaturel, qu'il est arrivé que frère Branham se voit dire, retourne à Jeffersonville, car l'heure est venue d'ouvrir les sept sceaux. Mesdames et messieurs, nous avons écrit à ce sujet. Il existe des ouvrages à ce sujet. Vous pouvez les lire en toute tranquillité. Puis vous avez la possibilité de critiquer et de contester vigoureusement, mais vous aurez aussi la possibilité de croire fermement et de rendre grâce à Dieu. Ce que chacun choisit de faire ne dépend que de nous tous. Pour ma part, je voudrais pouvoir vous rencontrer tous en toute bonne conscience le jour du jugement dernier et pouvoir dire que ce jour-là, je n'ai pas manqué de mettre à profit ce bref moment pour vous parler brièvement de ce que Dieu a fait et de ce qu'il fait en ces jours-ci. On ne peut que citer Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je vous prie instamment de ne pas vous offusquer de la simplicité de ce citoyen américain. Là-bas, tout le monde portait des costumes blancs cet été et il a fait de même sans être aussi conservateur que nous le sommes. Mais ce n'est pas l'apparence qui importe, mais ce que Dieu a déposé en cet homme. En vérité, c'était un homme envoyé par Dieu avec le message de Dieu au peuple de Dieu en ces jours-ci. Celui qui est de Dieu écoute maintenant la voix de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, vous aussi, vous assumerez le devoir saint d'étudier la parole, les saintes écritures, de prier Dieu de vous ouvrir le sens, la compréhension, de vous accorder la clarté, de vous bénir et de vous intégrer dans son plan, dans son programme, dans l'achèvement qui est en cours en ce même moment. Avant l'enlèvement de l'Église, celle-ci doit être appelée, préparée et parvenir à la plénitude afin d'être transformée lorsque le Seigneur viendra et de pouvoir entrer avec lui dans la gloire. Triste. Cette journée portée en chacun de nous des fruits éternels. Que Dieu nous bénisse. Levons-nous pour la prière. Tandis que nous inclinons la tête, je voudrais d'ores et déjà demander s'il y a parmi nous des personnes qui souhaitent véritablement consacrer leur vie à Dieu, qui ont simplement compris que ce n'est pas un homme qui s'adresse à nous, mais que seule la parole est transmise et que c'est le Seigneur qui s'est adressé à nous aujourd'hui. Présentons-nous maintenant devant le Seigneur, consacrons-nous à lui et prions-le d'être avec nous. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de tout notre cœur et de toute notre âme pour le grand privilège qui nous a été accordé ces derniers jours de te reconnaître, toi et ton œuvre. Nous te remercions de nous permettre de prendre part à ce qui s'accomplit maintenant par toi. Nous te remercions pour ta parole précieuse et sainte. Nous te remercions pour la rédemption qui s'est accomplie à Golgotha, pour la nouvelle vie éternelle que tu nous as donnée par grâce. Seigneur bien-aimé, aie pitié de nous tous et sois miséricordieux envers nous, accorde-nous l'espace nécessaire à la repentance et à la conversion afin que nous nous tournions vers toi. Tu ne repousseras personne. Tu nous acceptes tous. Tu nous pardonnes et tu nous bénis. Seigneur bien-aimé, sois avec nous en ce moment même alors que nous regardons ce film. Parle à nos cœurs et bénis-nous au nom de Jésus. Amen.